Première lecture, Exode 25, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux teintes en bleu, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'oriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles. Et ça, c'est important. D'après le modèle que je vais te montrer. Pas selon ce que moi je pense, pas selon ce que j'aimerais, et peu importe si des fois je ne comprends pas, selon le modèle que je vais te montrer. Et vous réalisez aussi cette phrase qui parle au futur et non pas au présent. Je vais te montrer. Plus tard, tu comprendras. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. On a vu la dernière fois, alors il y a une autre photo, là c'est une vue d'ensemble. Normalement, il y a une autre photo. Allez, encore une autre. Ça doit être là. Voilà. Bon. Alors, vous voyez, alors sur votre... Voilà, bah c'est, je suis encore assez grand. On avait parlé des socles d'argent. Les planches d'acacia recouvertes d'or, et on avait vu qu'il y avait les barres qui passaient, qui maintenaient ces planches. Cet après-midi, ce matin, nous allons voir donc les différentes couvertures qui font le tabernacle. Les couvertures du tabernacle étaient au nombre de 4. Et rappelez-vous toujours, frères et sœurs, qu'il y a énormément de symboles dans le tabernacle. Beaucoup de symboles, pour ne pas dire tout est symbolique. Et donc, il y avait 4 couvertures, et chacune d'entre elles était particulière. Pas une ne se ressemblait. Elles peuvent représenter symboliquement les 4 aspects différents du caractère et de l'œuvre de Christ. De même que nous avons les 4 évangiles, 4 aspects différents de la personne de Christ. Lorsqu'on est novice, lorsqu'on lit Matthieu, Marc et Luc, on a souvent l'impression, à quelque chose près, qu'on lit exactement la même chose. On se dit, mais je l'ai déjà lu dans un autre évangile. On appelle ça les évangiles synoptiques. En fait, ce sont les 3 et Jean qui rajoute après, ces 4 évangélistes, ces 4 apôtres plutôt, qui vont écrire les évangiles, sont des témoins qui racontent les faits de la personne de Jésus. C'est un peu comme sur un accident de la circulation, lorsque vous avez 2 voitures qui vont se rentrer dedans. Vous avez 4 témoins, un qui a vu en face, derrière, sur la droite, sur la gauche, et la police va dire, qui est témoin? Ils vont raconter les choses. À la base, ce sont les mêmes choses, mais ils vont raconter chacun leur version, qui, en fait, va revenir à la même base. Vous comprenez? Donc, ces tapis sont à l'image aussi de ces 4 évangiles. Chaque évangile, tel une couverture, est complet en lui-même, est complète en elle-même, est complet en lui-même, pardon. Mais si nous voulons avoir une vision d'ensemble de la personne de Christ, les 4 sont indispensables. On ne peut pas avoir une vision d'ensemble en s'arrêtant sur un évangile. Mais ces 4 couvertures, je vous rappelle, ont une symbolique importante. La première couverture que vous voyez, celle qui est tachée là, c'est ce qu'on appelle la couverture en peau de dauphin. En fait, nous verrons les choses en détail après, c'est le type de l'évangile de Matthieu qui représente Christ, le roi incognito. Il n'avait ni beauté, ni apparence, il n'attirait pas les regards. C'est la couverture qui représente donc Christ dans l'évangile de Matthieu. Pardon. Après, on a la couverture en peau de bélier, celle qui est de couleur rouge, type de l'évangile de Marc, qui représente Christ, le serviteur souffrant, l'expiation, la croix. Ensuite, nous avons la couverture en poil de chèvre blanche, vous voyez, qui est le type de l'évangile de Luc, qui représente Christ, fils de l'homme pur, saint, obéissant et plaisant à Dieu, qui va réconcilier les hommes avec Dieu, ou Dieu avec les hommes. Et puis la dernière, qui on ne peut, en fait, on ne voit aucune de ces couvertures, si ce n'est la première que j'ai citée, nous verrons ensemble, parce que là c'est une vue en découpe, mais elles sont chevauchées les unes aux autres. On ne voit pas celle qui est dessous. La rouge, on ne la voit pas, parce qu'elle est couverte par la peau de dauphin. La blanche est couverte par la rouge. Et les autres, l'autre couverture en fin lin rotor est couverte par la blanche. Et donc la dernière, où le sacrificateur, le souverain sacrificateur, rentrait, voyait donc cette couverture, est composée de bleu, pourpre et cramoisi, avec des chérubins tissés dessus, était composée de 10 tapis, pardon, je suis en train de vous donner déjà le caractère, j'ai sauté une ligne, c'est la couverture intérieure faite de fin lin, type de l'évangile de Jean, qui représente Christ, le Fils de Dieu et l'image de Dieu, Dieu invisible que nous révèle Jean, et ça représente la glorification de Dieu. On va reprendre ces couvertures au sens inverse, c'est-à-dire celle qui est la première, en fin lin rotor, la couverture intérieure qui était composée donc de bleu, de pourpre, et cramoisi avec des chérubins tissés dessus, était composé de 10 tapis, rassemblés les uns aux autres. Et là aussi, on peut y voir encore, avec ces 10 tapis rassemblés les uns avec les autres, encore ce symbole des 10 commandements. Des 10 commandements. Elle était posée sur les barres d'or, et elle constituait le toit de la tente, le tabernacle. Et elle nous parle de la perfection du glorieux caractère de Christ. La couleur bleue, puisqu'il en est question, là aussi tout un symbole, puisqu'elle nous parle du ciel. Du ciel. Et combien, lorsque on est bien placé dans cette région pour voir le ciel d'azur, lorsqu'on lève les yeux au ciel qui est d'un bleu éclatant, eh bien, on se sent tellement petit. On se sent tellement petit. On est impressionné, un bleu profond, un bleu qui est inaccessible. Nous nous sentons tellement indignes, ou plutôt petits, devant cette immensité de ce bleu d'azur. Et cela nous parle de Dieu, que nos regards ne peuvent percer le mystère, ne peuvent sonder la personne de Dieu. Et pourtant, Dieu qui est inaccessible s'est fait homme pour se rendre accessible pour l'humanité. Et puis, dans cette couverture, il y avait le cramoisi qui, à l'inverse, nous parle de la terre, la couleur rouge, qui, à partir de laquelle l'homme a été tiré. Et si le bleu évoque la divinité de Christ, le rouge nous parle de son humanité. L'une nous parle du Fils de Dieu et l'autre nous parle du Fils de l'homme. La faim, la fatigue et les larmes, les abandons dont il a été victime, les incompréhensions des uns des autres, lorsqu'il dira certaines choses et où 60 personnes partiront Et Jésus aura l'audace de dire, et vous, voulez-vous partir aussi? Combien de fois Jésus était humilié, rabaissé, pointé du doigt, on lui a craché dessus, on lui a tiré sur les poils de la barbe. On a rigolé sur lui et à la croix on disait, si tu es le Fils de Dieu, descends, nous croirons. N'avait-il pas assez fait? Et parfois dans notre vie, n'a-t-il pas assez fait? Ou nous arrivons encore parfois à douter? Dieu m'a-t-il réellement pardonné? Dieu m'a-t-il sauvé? Et pourtant, nous avons tellement eu de preuves de sa grâce, de son amour. En fait, Jésus était, cette couleur représente Jésus comme étant pleinement homme aussi. Et puis, le pourpre, cette couleur est obtenue en mêlant le bleu et le cramoisi, le mélange de ces deux couleurs nous donne une troisième, un troisième symbole. Christ est divin, il est aussi humain, et quand on fait l'addition de ces deux choses, il est les deux à la fois. Pleinement Dieu dans le ciel, mais pleinement homme sur terre. Ayant été tenté en toutes choses, sans jamais avoir péché, étant le souverain sacrificateur qui peut comprendre les uns et les autres. Chacun à sa manière, nous avons nos luttes, nos combats, nos difficultés, nos remises en question, des points d'interrogation, des souffrances, des douleurs, des joies, des succès, mais aussi des échecs. Où nous sommes en quête de ceci ou de cela pour essayer de perfectionner notre bonheur. Et puis parfois on s'aperçoit que la perfection n'étant pas sur terre pour avoir ce bonheur absolu, nous sommes parfois dans les larmes, dans l'incompréhension, et pourtant Dieu est à nos côtés, venant à notre secours. Marchant à côté des deux disciples qui allaient sur Emmaüs, les écoutant parler, les voyant faire, on imagine le visage de ces deux hommes qui étaient là et qui étaient en peine, en souffrance, d'avoir vu, été témoins de ce que leur cher Sauveur a été crucifié à la croix, et entendu les humiliations des uns des autres, les femmes qui étaient en train de pleurer, les autres qui étaient dans l'incompréhension, mais pourquoi est-il mort? On était si bien avec lui, et ces deux garçons en train de parler les uns l'un avec l'autre, Jésus venant marcher à côté d'eux, ne l'ayant même pas vu arriver. De quoi discutez-vous? De quoi parlez-vous? Leur peine était tellement immense, incontrôlable même, qu'ils ne pouvaient voir la personne de Jésus. Avez-vous ressenti la personne de Jésus à vos côtés lorsque tout allait mal? Êtes-vous de ceux et de celles qui, malgré parfois des souffrances, des incompréhensions, voire même de l'incrédulité, quel gros mot! Avez-vous ressenti la présence de Dieu? Être surpris, voire même gêné, parce que vous êtes dit, mais moi qui pensais que, et enfin je m'aperçois que tu es là. Le Saint-Esprit venant consoler les cœurs, nous révélant le Fils de Dieu, le tout accompli sur le bois de la croix, en disant, je suis là. C'est moi qui vais te relever. C'est moi qui vais t'encourager. Et puis, on y voit en conclusion le médiateur. Quand on voit Christ divin, il est aussi humain, on voit le médiateur entre Dieu et les hommes. Homme, la croix touchant la terre et se dressant vers le ciel. 1 Timothée 2,5, car il y a un seul médiateur, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La deuxième couverture, qui est de poils de chèvre blanche que vous voyez. Cette couverture était toute blanche et elle était passée, posée sur la première de fin lin retors. Et le symbole, encore une fois, nous y voyons la sainteté de Jésus sans tache, pur, seul à être capable d'être le médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul qui a été, où Dieu a pu valider son sacrifice. Terminé, ce n'est plus la peine d'aller offrir des animaux pour être pardonné de ses péchés. Christ, une fois pour toutes, a été crucifié à la croix. Et puis, cette deuxième image qu'on peut, ce deuxième symbole qu'on peut voir à travers cette couverture de poils de chèvre blanche, elle représente le caractère, le privilège du chrétien que nous sommes, rendu blanc par le sang de l'agneau, qui demeure en communion avec lui et dans la foi en Dieu. Dans le psaume 119, verset 9, il est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Comment ? Combien de questions nous avons ? En se dirigeant d'après ta parole. Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs, disait Jésus, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Dans l'Apocalypse 7, je cherche avec vous, ou je cherche pour vous, versets 14 à 15. Il est écrit, verset 13, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de Martigues, de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Bien sûr, ceux qui n'auraient pas la Bible, il n'est pas écrit Martigues, vous l'avez bien compris, mais je préfère quand même le préciser. Oui, tous ceux qui nous ont précédés sont dans la joie, dans le bonheur, dans la félicité. Même si nous ne comprenons pas toujours, celui qui est dans le ciel est auprès de son cher Sauveur. Ne marchant plus par la foi, ne marchant plus par l'espérance, mais marchant par la vue. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit, disait Job, avant même d'avoir vu Dieu, mais il parlait en disant, je te vois agir dans ma vie. Mais les uns et les autres, bientôt, le 31, on se frappe à la bise. Mais on se dira, bonne et heureuse année. En fait, vous le répéterez à personne, mais moi je m'en fiche un peu. Pour ne pas dire complètement. Parce que je sais que ça ne changera rien. Mais enfin bon, c'est la tradition. Les gens font comme ils veulent. Mais vous savez, quand on arrivera au ciel, quelle joie, quel bonheur. De voir que nous pourrons rentrer dans ce ciel de gloire. Et de remercier, de louer, de bénir notre cher Sauveur. La troisième couverture, On est à la troisième ? Oui, c'est ça, vous suivez, c'est très bien, pourvu que ça dure. La troisième couverture, de peau de bélier. Le fin lin et le poil de chèvre n'évoquaient pas la souffrance. Mais les peaux ne peuvent être obtenues que par des sacrifices. Les peaux de bélier teintes en rouge nous parlent à la fois de mort et de transformation. C'est la troisième. Jésus y est représenté comme étant un homme de douleur, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et cette teinte rouge nous parle du sang de l'agonie. Christ sur la croix. Les poils de chèvre, lorsqu'on les voit qui sont blanches, nous parlent du Christ ressuscité, nous l'avons vu, nous le voyons, et le fin lin, la première couverture que nous avons vue ensemble, c'était le Christ dans la gloire. Mais il a fallu que Christ meure à la croix pour qu'il puisse ressusciter et qu'il retourne à la gloire. La deuxième image que l'on peut en tirer, ces teintes en rouge nous parlent en tant que chrétiens. Et c'est uniquement grâce à la puissance du sang expiatoire que nous avons la capacité de rentrer dans sa sainte présence. Comment rentrons-nous dans la présence de Dieu ? Je ne sais pas si je vais bien faire de le dire parce que je veux choquer personne. Et en même temps, j'ai envie de vous le dire. Qu'est-ce que je fais ? J'ai plutôt la deuxième option qui me vient à l'esprit. Non, parce que je veux froisser personne, mais en même temps, c'est pas un avis biblique, c'est un avis tout à fait personnel. Est-ce que je peux me permettre de vous donner mon avis ? Vous me permettez? Donc, si vous avez l'habitude de faire comme l'exemple que je vais vous donner, si dans votre conscience, ça ne vous pose pas de problème, continuez. Mais peut-être que ça aussi, ce que je vais vous dire pourra... Ce n'est pas parce que c'est Stéphane Mingard, le pasteur, qui le dit qu'il faut... Voilà, mais des fois, on est dans nos habitudes, on est tellement habitué qu'on ne voit pas forcément quelque chose de malsain. En fait, c'est une valeur que nous nous donnons, nous, si on fait les choses avec bonne conscience, et voilà. Mais quand je prends conscience que la deuxième image, comme j'ai pu la donner, c'est uniquement grâce à la puissance du sang de expiatoire que nous avons la capacité de rentrer dans sa présence, dans sa sainte présence, je n'arrive pas à comprendre. Personnellement, je vous ai dit, j'ai pris les devants, hein. C'est un avis tout à fait personnel. Mais je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse lire même le calendrier, voire même la Bible, quand on est au cabinet de toilette. Personnellement, je ne peux pas le concevoir. Je ne veux choquer personne. Je vous ai dit, c'est juste un avis personnel. Mais j'ai du mal avec cette philosophie. Personnellement, ça me dérange beaucoup. Parce que sans le vouloir, on désacralise ce moment. Et puis on vit une époque où on a tendance à désacraliser les choses. Bientôt, dans un mariage, on va venir en short. En short, j'ai rien contre les shorts. Hein. Enfin, ça dépend la hauteur, ça dépend le morceau de tissu qu'on a. On va peut-être venir au mariage avec un jogging, même s'il y a de très beaux joggings. Mais vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est qu'on dénature, on désacralise les choses. Comment on ne va pas à un enterrement avec un pantalon rouge? Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai une éducation, c'est peut-être parce que c'est de la Normandie, j'en sais rien. Enfin, on n'arrive pas à un enterrement avec des couleurs chatoyantes. On a un respect. Alors, d'autant plus pour Dieu, non? Est-ce que je rentre dans la présence de Dieu en disant « Bon, allez, hop Marthe, tu te prépares le café, là, je vais lire ma Bible. Bon, alors Seigneur, voilà, je te prie pour Vincent, je te prie pour les Gédéons, je te prie pour un tel, amen !» Bon. Vous avez parlé comme ça, votre patron? On rentre dans la présence de Dieu. Le souverain sacrificateur rentrait une fois l'année dans le lieu très saint. Lieu saint et lieu très saint. C'est pas parce que les gens désacralisent les choses qu'il nous faut perdre ce symbole. Être dans le respect de Dieu. Alors quelqu'un pourrait dire, mais moi je suis dans le respect de Dieu. Oui, mais je l'entends, je vous ai dit tout à l'heure, c'était un avis tout à fait personnel. Mais si ça peut parfois faire bouger les lignes et faire comprendre à des personnes qui n'avaient peut-être pas vu les choses de cette façon, voilà. Après, chacun fait comme il veut. La couverture blanche, donc, était sous la rouge. La pureté devant Dieu ne peut se trouver que sous le sang. Sans effusion de sang, point de pardon. Il faut que nous mourions à nous-mêmes afin de pouvoir ressusciter avec Christ. Jean 12, verset 25, est écrit, « Celui qui est attaché à sa vie propre la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la retrouvera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, il devra me suivre et passer par le même chemin que moi. » C'est dans la version Parole vivante. Passer par le... Est-ce que je prends conscience? Moi, je vous le dis, mais... On ne peut pas dire qu'on prend réellement conscience. Je vais passer par le même chemin que Jésus si je veux suivre Jésus. Est-ce que j'ai souffert jusqu'à l'agonie, jusqu'à avoir des grumeaux de sang qui coulaient de mon front? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Est-ce que je me suis senti déjà abandonné de mes plus proches? Non. Enfin, on pourrait donner les multiplier les exemples. Et pourtant, ici, il est question de si on veut suivre Christ. d'être attaché à sa vie, alors on la perdra. J'ai toujours été, enfin pas toujours, mais pardon, ça fait longtemps que ça m'avait interpellé. Le psaume premier, vous connaissez le psaume premier ? Il m'a étonné ce psaume. On le lit ensemble, heureux l'homme, il n'est pas très long, il y a six versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Jusque-là, ça va, hein ? Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Bon, là, ça va. Mais là, moi, ça me coince, ça coince. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est là que ça coince pour moi. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ma propre interprétation de ce passage me dit, mais c'est que dans une église, il peut y avoir des pécheurs. Enfin, on est tous pécheurs, sauvés par grâce, comme dirait Jean Bosco. Il a raison, il est biblique en disant ça. Mais nous sommes sauvés. Mais si je viens dans une église et que je n'ai jamais fait la paix avec Dieu, je peux venir à l'église comme si j'allais dans un club. Hein? Parce que on aime bien les chants, c'est bien interprété. Parce que c'est serein, on a une certaine paix. Moi, j'ai connu une dame, lorsque nous étions sur Albertville, quand je faisais des appels, elle levait la main. Mais jamais, enfin de notre temps, jamais elle s'est engagée. Jamais. Et puis vous savez, il y a toujours des excuses. Hein. Ah ben j'ai la mamie à garder, ceci, cela. Oui, mais enfin, la mamie, d'accord, mais enfin, mais ton engagement avec Jésus, on peut avoir des... On a des obligations, on est bien d'accord, mais mon engagement de cœur avec Dieu... Donc, quand je lis ce passage, ça me parle en me disant, mais ça veut donc dire que dans l'assemblée des justes, des chrétiens, il peut y avoir, ça ne veut pas dire qu'il y en a là, mais il pourrait y avoir des gens qui aiment bien, mais qui en fait leur vie est en désordre. Il y a tellement d'exemples à donner. Le non-pardon. Alors on peut, oh, alléluia, gloire à Dieu. Mais si j'ai mon cœur plein de haine à l'égard d'une personne, de plusieurs personnes, je suis en décalage avec Dieu. Si je me dis, mais moi je vis à la colle. On s'aime, mais on ne se marie pas parce que... Mais je suis en décalage avec la parole de Dieu. Si je triche, parce que le patron il est plein de sous et que moi il vient en Mercedes et que moi je viens avec ma vieille Visa Citroën, et si vous attendez un peu, si vous continuez à l'entretenir, elle va devenir un objet de collection. Donc elle vaudra plus que la Mercedes peut-être, si vous êtes patient. Mais je suis en dehors des clous, je ne suis pas dans les clous. C'est pas le fait d'être présent ici, de comprendre, de dire waouh, c'est super, je savais pas que c'est... tout ça, ça symbolisait. Mais mes frères et sœurs, mais je vous le dis à vous, je me le dis à moi. Lorsque la maison est fermée, lorsqu'il fait nuit, que tout le monde est couché, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Il est important que, vous savez, plus aujourd'hui qu'hier, et encore plus demain, et encore, on ne sait même pas si demain sera. Jésus revient. Alors quelqu'un pourrait dire, mais Jésus revient, ça fait tellement longtemps qu'on l'entend. Oui, d'accord, mais c'est pas nous qui allons donner le tempo à Dieu. Hein. Mais Jésus revient. Il y a Emmanuel, il m'a dit comme ça, en quelques mots, il m'a dit, celle-là, je ne l'avais pas vu arriver. Son problème de santé, il ne l'avait pas vu arriver. Puis alors, quand vous demandez comment ça va Emmanuel, lui, ça va toujours bien. Alors, il sera en train de vous faire une crise cardiaque. Oh, ça va Emmanuel? Oh, oui, ça va bien. Mais il est comme ça. Bon, enfin, il n'y a que sa femme qui pourrait mieux parler que... Voilà. Mais en quelques mots, il m'a dit, en gros, celle-là, je n'avais pas vu arriver. Oui, il y a des choses qu'on ne voit pas arriver. Mes frères et sœurs, c'est important qu'on puisse régler nos affaires. Il faut qu'on soit clair devant Dieu. Il faut qu'on soit clair. Clair. Donc il faut, ça nous l'avons vu, il faut que nous mourions à nous-mêmes. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. C'est facile à dire quand on a le micro et que tout le monde vous écoute. Ça, c'est très facile. Bon, il y a vous-même. Oui, et puis toi, t'en es où là? Parce qu'on est tous dans la même barque. Tous. Tous. La quatrième couverture et la dernière, la peau de dauphin, c'est celle que l'on voit lorsque toutes les couvertures sont tirées. C'est la seule que l'on voit de l'extérieur. D'autres ont traduit que c'était une peau traduite en blaireau, peau de blaireau. Les juifs même parlent d'un animal qui est inconnu, qui aurait disparu. Bon, ça c'est un peu facile. Hein. Mais enfin, peau de blaireau, parce que je me suis dit, peau de dauphin. Enfin, vous êtes comme moi, dauphin. Bon, des dauphins. Est-ce que c'était des... Comment il s'appelait lui Dauphin, comment il s'appelait? Comment? Ah, vous connaissez vos classiques, hein? Flipper le dauphin? Ben non, mais moi j'ai pensé à ça, je me suis... Non! Bon. En fait, cette couverture était la moins jolie. Elle n'était pas belle. Elle n'avait pas d'attrait. Mais elle était pratique. Les autres, elles avaient un attrait fort. Que la dernière, ou plutôt la première en commençant par l'extérieur, n'était pas du tout jolie. Et cette couverture épaisse était imperméable, n'avait pas un but esthétique, mais protecteur. Contre l'humidité des nuits désertiques, des chaleurs torrides du jour, du soleil et de ses rayons, mais aussi des tempêtes de sable. En fait, ça nous parle de notre vie. Il y a des fois, il y a le ciel bleu, hein. On aimerait que ça soit toujours le ciel bleu. Moi, une fois, quelqu'un a dit comme ça, « Oh, la pluie me manque !» J'ai rien dit parce que... La pluie me manque. Bon, ce n'était pas quelqu'un du Sud. Hein. Bon, des fois, il vaut mieux se taire. La pluie me manque. Mais, il faut bien reconnaître que... Enfin, je dis ça parce que c'est une région où il pleut beaucoup. Mais enfin, vous me comprenez. Mais j'en dirai pas plus. Et donc, cette couverture épaisse et imperméable, donc, nous protéger contre les nuits humides, désertiques, mais aussi en plein jour de la chaleur torride, de ces différentes tempêtes. Et en fait, ça nous parle de notre vie aussi. Mais cette peau de dauphin est tout un symbole encore, puisque lorsqu'on lit dans Ésaïe 53, verset 2, et vous voyez certainement où je veux en venir, on en a un peu parlé tout à l'heure, où il est écrit, verset 2, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Écoutez bien, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, ça m'intéresse aussi, tiens. Ça peut remettre les choses au clair pour les chrétiens que nous sommes. Et habitués à la souffrance. En fait, ah tiens, où est-ce que j'ai lu ça? C'est le Provençal ou quoi? L'évangile de la prospérité. Ça ne vous parle pas, ça? Non, ce n'est pas dans le Provençal, vous n'en faites pas. Vous savez que ça court les rues maintenant, l'évangile de la prospérité. Seigneur, je te donne 100 euros, hein, t'oublies pas, 100 euros au centuple. En fait, je prends Dieu pour un coursier, quoi. C'est même pas ça. Oui, enfin, déjà, j'ai mangé le mot, mais on peut... Hein? Pas un banquier, ceux qui sont à la bourse, là, comment on les appelle? Ah oui, c'est parce que c'est en anglais, c'est pour ça que j'ai eu du mal à sortir, celui-là. Ceux qui font un trader, enfin bon, vous avez compris, enfin ceux qui sont derrière les machins, là. Enfin, je prends Dieu pour ça. Je te donne, mais tu n'oublies pas de donner. Et là, il est écrit, homme habitué à la souffrance, semblable à ceux dont on détourne le visage, etc., etc. Je vous invite à le lire, le chapitre 53. En fait, ça nous parle de Jésus. Voilà encore le symbole de cette peau de dauphin, de blaireau, enfin peu importe, qui n'avait ni éclat, ni beauté, qui aurait pu nous interpeller. Mais lorsqu'on parle à Jésus, bien sûr, nous ne l'avons pas vu. Mais lorsqu'on parle à Jésus, on s'aperçoit combien il est plein de charme, plein de douceur, combien il est plein de bonté, de droiture, de justice, de pureté, de sainteté, de beauté et de gloire. Combien on s'aperçoit que Jésus, c'est celui qui relève, celui qui est tombé. Il n'éteint pas le lumion qui fume. Il relève, il encourage, même si ça fait longtemps qu'on s'est égaré loin de Dieu. Il nous reprend. Il ne nous rejette pas. La conclusion de tout ça, ces quatre couvertures peuvent aussi représenter, sous ces différents aspects, les parties du tabernacle, en commençant par la couverture du pot de dauphin, le désert alentour. La peau de bélier teinte en rouge, la cour des sacrifices, celle que vous voyez autour de la tente. Les poils de chèvre blanches, le lieu saint, puisque vous savez que le tabernacle est divisé en deux, lieu saint et lieu très saint. Et le fin lin rotor représentant le lieu très saint. Et pour nous, la peau de dauphin peut représenter l'homme irrégénéré. Mais grâce aux peaux de chèvre rouge, nous sommes transformés par la puissance du sang expiatoire au moyen de la foi en Christ. Le poil de chèvre blanche, nous sommes purifiés, délivrés du péché caché en Dieu que nous sommes. Et pour finir, le fin lin rotor nous montre notre marche dans la lumière, un libre accès auprès du Père. Dans Éphésiens 2:18, et ça sera les derniers versets, Éphésiens 2:18. Il nous dit, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et dans l'Épître aux Hébreux, le dernier verset, chapitre 10, verset 19, nous dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau, d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Mes frères et sœurs, la prochaine fois, Dieu voulant, si Dieu nous prête vie, si le Seigneur n'est pas revenu, ou si le Seigneur ne change pas le programme, nous verrons l'intérieur du tabernacle. Alors, que le Seigneur nous aide, non seulement à comprendre ces symboles, à les retenir, mais aussi à les vivre. Et pour que ça puisse nous aider aussi lorsque nous rentrerons dans sa présence, à la maison ou même à l'église, de dire, Seigneur, eh bien, je comprends ces choses. Seigneur, je comprends, eh bien, ta gloire. Et si je peux voir ta gloire, c'est parce que tu m'as lavé, parce que tu t'es révélé dans mon cœur. Et que notre cœur puisse chargé de reconnaissance et de louange à la gloire du Seigneur.